Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Et donc 21h ici à Rio, et c'est l'intégrale Rio 2016 qui continue tout de suite.
RMC, intégrale Rio 2016, Gilbert Bribois.
Avec donc Maryse et Nicolas. Oui, une question Maryse, logistique. C'est un truc qui m'a toujours un peu étonné. Hein. Le javelot, comme le marteau d'ailleurs, ce sont des sports dangereux. C'est-à-dire qu'on jette quand même un projectile ultra dangereux. Là, le javelot, bon là, il se plante dans la pelouse, très bien. Mais enfin là, on a quand même un concours du javelot. Et juste en face, le saut en hauteur des filles. Alors, oui. Ok, le record du monde, faudrait que le record du monde soit battu de 10 mètres pour que ça atteigne, voire de 20 mètres pour que ça atteigne le sautoir. Mais enfin, tout de même, je sais pas, c'est...
Eh bien, en fait,
c'est assez étonnant de faire un concours de javelot en sachant que dans la ligne de mire, il y a un concours de saut en hauteur. Hein.
Bah, peut-être que ça les motive hein, d'aller chasser la gazelle, j'en sais rien. Non,
ouais,
tout, mais en fait, c'est la raison pour laquelle le lancer du javelot messieurs a été modifié et qu'on a modifié l'endroit le plus lourd du javelot pour qu'il puisse piquer, parce que lorsque Uwe Hohn, cet Allemand de l'Est, avait lancé son javelot à 104 mètres, et c'était à Berlin en 1984, oui c'est ça, et bien le 104 mètres, vous imaginez bien que là pour le coup on était juste au niveau du sautoir en hauteur, et il y avait d'ailleurs un concours, le concours dans lequel une certaine Bulgare a battu le record du monde pendant ce temps là et effectivement le javelot s'était planté juste derrière le sautoir, j'y étais hein. Et quelques temps après on s'est dit, ah ça fait un peu peur, oui. Ça fait un petit peu peur quand même quand tu vois arriver un javelot volant comme ça et tout d'un coup une fille qui est en train de sauter, ça fait un peu peur, et donc effectivement ils ont décidé de modifier les javelots pour qu'ils aient toujours le même poids, toujours 800 grammes, mais ne faire en sorte qu'ils ne soient plus planeurs.
Ça a revu les records alors.
Ça a revu les records. Donc il y a toujours un record du monde ancien javelot qui est détenu par Uwe Hohn, et le nouveau record du monde par Jan Zelezny. Sauf que au début on avait des records du monde aux alentours de 80-85 mètres. Maintenant effectivement record du monde à plus de 90 mètres. Peut-être qu'ils seront obligés de modifier encore les javelots dans quelques temps, ou pourquoi pas de les alourdir.
98 mètres. Bolt hier il a lancé le javelot à 57 mètres apparemment à 1h40 du matin quand les lumières des salles étaient éteintes. Il a pris un javelot, il est descendu et puis il a fait le show. Il y avait encore quelques dizaines de personnes dans les tribunes. Il a lancé le javelot à une distance estimée à 57 mètres. La vidéo existe, hein. Je te la montrerai.
C'est hallucinant, c'est
incroyable. À 1h40 du matin. Ouais.
Mais j'aurais adoré voir Usain Bolt sur le décathlon.
Ah bah oui, tiens, tu montres la vidéo là.
Adoré voir Usain Bolt sur le décathlon. Parce que t'imagines bien que sur 400 mètres, aucun problème. Longueur, aucun problème. 1500, je pense qu'il a de l'endurance. Il le ferait comme le font les décathloniens. 57 mètres au javelot, ça fait quelques points.
Je crois que sur le 100, il est pas mal. Il fait max de
points. Il est pas mal sur le 100 mètres, ouais, il est pas mal.
Mais c'est incroyable, hein. Regarde. C'est déroulé hier soir, donc il était 1h40 du matin.
C'est
après son titre de champion olympique du 4x100. Bim, 57 mètres.
Voilà, effectivement, je pense que si vous tapez Bolt Javelot Rio, vous allez trouver la vidéo. Allez-y. Alors, le javelot, le saut en hauteur féminin et surtout le 1500 qui va démarrer dans quelques instants. Grande finale à venir donc sur RMC.
Ouais, là, il y a du monde. Hein. Forcément, il y a des Kenyans. Ronald Quemoy, hein, 3:30, 49 cette saison. C'est le meilleur performeur mondial de la saison. Et moi, je voulais m'arrêter sur un Marocain, Gilbert. Il s'appelle Abdalati Iguédia. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai envie de parler de lui? C'est pas le favori. Hein. Voilà.
Ah, on commence l'Olympic Quiz. Alors,
il a fait bronze à Londres quand même et bronze à Pékin. Mais il a le jeu de pression énorme sur les épaules. Pourquoi? Parce que le Maroc.
Il a du Brésil dans sa famille? Non, pas du tout.
Le Maroc, cette année, n'a fait qu'une seule médaille sur les Jeux Olympiques.
Ah.
Et c'est une crise au pays. Une seule médaille pour les Marocains.
En boxe, hein.
Et c'était en boxe du bronze avec Mohamed Rabhi. Et donc lui, là, il porte tous les espoirs de son pays, le Maroc. On rappelle que le 1500, c'est quand même le pays du Maroc, hein, avec Hicham El Guerrouj, recommande du monde encore de la distance. Et lui, il porte tous les espoirs ce soir et tout le monde espère qu'il va ramener une deuxième médaille à son pays. Il n'est pas dans les favoris, mais il fait quand même partie des outsiders quand même. Il a 3:28 dans les jambes, il y a quelques temps.
Un très sérieux outsider, même si Abel Kiprop, le Kenyan, est le favori de la compétition avec Souleymane Agnalé, le Djiboutien, qui a un très gros grand courant aussi. Mais Abdallati Iguider, normalement, devrait pouvoir se rapprocher du podium et jouer la gagne contre Toufik Makhloufi, l'Algérien.
Alors, je ne sais pas s'il y a des Marocains dans le stade, mais on va les entendre hein, si jamais il arrive à finir parmi les trois premiers.
Et le Maghreb, donc très représenté, hein, parce que Toufik Makhloufi, on le sait, c'est le champion olympique sortant du 1500 mètres et il ne va pas abandonner son titre comme ça aussi facilement.
Ouais, Makhloufi, l'Algérien qui est là aux avant-postes également avec son compatriote, avec son cousin marocain. C'est parti pour ce 1500. On attaque l'avant dernier tour pour l'instant. Et bon, les Kenyans hein, qui seront là aussi, mais pas seulement. On a également en 3:31-35 Makhloufi. En 3:32, il y a l'Australien Ryad Gregson qui va vouloir se mêler à la lutte, mais ce sera intéressant. Ça va s'énerver dans une minute à peu près. 1 minute 30.
Et Asbel Kiprop, qui était champion olympique en 2008, va essayer, pourquoi pas, lui aussi, de jouer la gagne. Abdellati Guider, eh bien, il était médaillé de bronze en 2012. Et d'ailleurs, beaucoup des candidats qui sont ici dans cette finale étaient en 2012 présents, dont Makhloufi, on l'a dit, champion olympique. Également Mathieu Centrovitz, l'Américain, qui avait terminé au pied du podium. Lui aussi a de gros espoirs dans cette finale. Autant dire qu'ils sont un certain nombre à avoir de bonnes raisons d'être dans cette finale et de vouloir pousser les copains hors du podium.
Hein. Makhloufi peut faire un incroyable double podium ici, hein. Bon, champion olympique, tu l'as dit, Maryse, à Londres.
Il chute sur l'arrière.
Un ouais. Kenyan.
Et ouais, alors c'est quel Kenyan? Parce que
il a été voir. Bousculé.
C'est
hein.
L'unique Kenyan d'ailleurs. C'est Quemoy hein, qui a chuté, mais qui est en train de refaire son retard. Mais ça l'oblige à fournir un effort. Alors qu'il reste à peine moins de deux tours désormais dans cette finale du 1500 mètres. Il est forcément dernier pour l'instant. Devant lui, il y a Makhloufi qui a fait argent sur 800 mètres.
Oui.
Aussi,
je ne sais pas si ça n'est pas Makhloufi qui, en le passant, l'a accroché. Il faudra qu'on regarde ça au ralenti. Makhloufi, on en a déjà parlé, qui est plus puissant hein, que les autres, qui court un peu comme un boxeur, on va dire. Et quand il passe, il vaut mieux ne pas être trop collé à lui, parce qu'il sait jouer des coudes et il sait mettre des pointes de vitesse assez dévastatrices. D'ailleurs là, le train s'est accéléré, il est sur l'arrière, mais il contrôle de l'arrière, il aime bien faire ça
hein. Ouais,
il regarde sur l'arrière et ensuite il arrive sur l'avant, alors que c'est
ça chamaille entre la Nouvelle-Zélande là, et les États-Unis entre Blankenship avec son look totalement improbable, ce bandeau noir dans les cheveux, on dirait un bassiste de métal. Et on va accélérer parce qu'il va bientôt rester plus qu'un tour dans cette finale du 1500 mètres. Regarde l'effort qu'il fait Quemoy sur la droite hein. Il est obligé de faire plus de distance.
Et là tu vas voir arriver Makhloufi sur l'extérieur.
Ça va
se bouger. Oui, tout à fait. Souleymane, le Djiboutien qui est devant maintenant, c'est en train d'accélérer très très fort. Iguider qui vient également passer avec Centrovitz. Ils sont tous ensemble. Centrovitz toujours qui mène le train. Et ça s'accélère encore.
Ouais, et c'est parti pour les 300 derniers mètres de la finale du 1500 mètres. Le Maghreb est aux avant-postes avec le Marocain Iguider, l'Algérien Makhloufi. Et sur la droite, à l'extérieur, c'est le Kenyan Quemoy qui a chuté, qui essaye de refaire son retard également. Il y a également l'Américain Mathieu Centrovitz. Ouais, Quemoy, il est un peu lâché maintenant, le Néo-Z, lui pour l'instant 5e. Et le Maroc et l'Algérie sont au coude à coude également avec sur l'extérieur c'est Théophile Makhloufi qui va essayer, Maryse,
d'aller chercher droite avec Makhloufi, Guider, Centrovitz. Les quatre garçons sont en train de sprinter.
Le sprint de Makhloufi,
peut-être pour Makhloufi.
Makhloufi qui va accélérer. Makhloufi, mais attention, avec Centrovitz, champion olympique du 1500 mètres. L'Américain n'en revient pas devant le champion olympique en titre, l'Algérien Taoufik Makhloufi. Une course de patron autoritaire pour l'Américain.
Et probablement l'un des chronos les plus lents d'une finale olympique. Ils se sont fait un peu à l'intox cette course au train. Et c'est dans le dernier tour que ça s'est joué. Alors forcément, c'est toujours risqué parce que du coup, tu emmènes tous les concurrents avec toi quand tu fais ce genre de course. Et c'est Mathieu Centrovitz qui était au pied du podium en 2012, qui avait fini 4e, qui l'emporte devant Taoufik Makhloufi, le champion olympique sortant et ici médaillé également sur 800 mètres. Et le néo-zélandais Nicolas Willis qui prend la 3e place devant Agnalé Souleymane et malheureusement Abdallati Iguider, le Marocain, qui ne remportera pas la médaille pour son pays, le Maroc, qui finit en 5e position, alors que le champion olympique 2008 Asbel Kiprop, le Kenyan, finit en 6e position. Il faudra regarder quand même s'il n'y a pas de disqualification, parce que la chute que l'on a vue en début de course pourrait peut-être bousculer un petit peu ce podium. Mais pour l'instant, le podium, Centrovitz, Makhloufi et Willis.
Ouais, il avait fait bronze à Daegu, argent à Moscou au championnat du monde, et le voici maintenant champion olympique, l'Américain, ce qui confirme que les Américains sont là, et vraiment là sur le demi-fond.
Ils sont là chez les garçons sur le demi-fond. On a quasiment vu qu'eux, ils sont quasiment sur tous les podiums de demi-fond. Je suis vachement étonné. Ouais, c'est...
Alors là où effectivement ils font des super jeux olympiques hein, au niveau de l'athlétisme. Ils ont raflé beaucoup de choses. Ça se bagarre un peu sur le sprint avec la Jamaïque, mais on les a vus aussi. On a vu un triplé sur le 100 mètres et chez les filles. On les a vus évidemment aussi sur les sprints plats, on va dire sans barrière, sans obstacle. Et sur le demi-fond, ils sont partout.
Et il habite à Eugene, donc qui est l'une des mecs du.
Oui, oui, bah c'est la ville des sélections américaines aussi, voilà, Eugene.
Alors, lui, il est entraîné par. Fontaine hier soir.
Parce qu'il est entraîné par quelqu'un, par un coach sulfureux qui est Alberto Salazar, en fait, qui lui aurait incité, mais ça, on en est quasiment sûr, visiblement, des athlètes à se doper. Alberto Salazar, hein, lui qui avait entraîné également Mo Farah, qui avait plongé un peu dans la polémique. Mo Farah, qu'on verra tout à l'heure sur la finale du 5000. Alberto Salazar, qui, le Cubain, qui est là depuis quelques années aux États-Unis.
Voilà pour cette finale du 1500 avec un podium assez étonnant. Donc un Américain vainqueur, un Néo-Zélandais troisième. Et donc McLoofy qui ramène deux médailles pour l'Algérie. Une au 800 et une au 1500. Donc après sa médaille d'or à de Londres. Et bien sûr, on suit encore à distance le
javelot.
Javelot.
Julius est en tête.
Et il est en tête avec 88 mètres 24, notre ami Julius Rigaud devant Thomas Roller, 87 mètres 40, et Johannes Vetter, l'autre allemand, 85 mètres 32, alors que notre ami de Trinidad et Tobago, Keshawn Walcott, est quatrième pour l'instant, 83 mètres 45. Là aussi, de nouveaux visages, de nouveaux pays qui arrivent dans ces lancers. Ça fait du bien, ça change, ça renouvelle un petit peu.
Ouais, le deuxième lancé de Julius Rigaud, t'as raison, après son 88 mètres 24, le Kenyan, 1m75, il est pas grand, hein. 1m75, 94 kg.
Il est très puissant, très costaud, beaucoup moins allongé et moins longiligne que les autres lanceurs. Par contre, il a cette même façon de lancer spectaculaire que Jan Zalesny, d'abord avec presque un grand écart sur son dernier élan et en se jetant au sol pour éviter de franchir la limite. Et puis alors, c'est extrêmement spectaculaire.
Ah ouais, mais c'est limite. En note artistique, moi je lui mets 9 sur 10.
Ah, 10 sur 10 même. Franchement, c'est beau, je trouve. Et Jan Zalesny, c'est pareil. Il plonge complètement.
Donc son concurrent numéro 1, l'allemand Thomas Roller, meilleur performant mondial de l'année, 91 mètres 28 pour l'instant. Il est deuxième, bien sûr, 87 mètres 40. C'est parti pour Thomas Roller. On va voir s'il va aller chercher justement le Kenyan Julius Yego. Non, il n'a pas mordu, c'est bon, ça va loin, mais ça n'ira pas plus loin que le Kenyan pour l'instant, qui reste en tête. Julius Yego, champion du monde en titre, mais bon, il reste encore 4 essais pour tous ces hommes.
Alors que du côté du 100 hauteur, c'est passé sans aucun souci pour Ruth Spetial, une des favorites du concours, 1m93, pour Shanti Love, l'américaine, à laisser Trost, la jeune italienne qui avait fait il y a quelque temps le record du monde junior, qui maintenant est un peu plus âgée.
Et la française.
Et Marie-Laurence a passé 1m93 à son deuxième essai. Marie-Laurence Jungfleisch, qui pour ceux qui nous rejoignent maintenant, représente l'Allemagne, mais a une maman française. Donc nous avons décidé que.
Moi je la compte dans le tableau des médailles, hein, si elle fait médaille.
Qu'elle était française, voilà.
On ira la voir.
Bon, on a le 800 mètres qui arrive, 800 mètres féminin, la finale avec Caster Semenya, dont on a longuement parlé ces dernières nuits ici au stade d'athlétisme. Et donc là, on va voir si c'est le grand soir pour la Sud-Africaine.
Mais là, il y a un match hein, quand même, parce que Caster Semenya qui a survolé en 2009, Marie, tu y étais toi, à Berlin, avec quasiment 30 mètres d'avance sur la deuxième. Elle avait un peu disparu, elle a quand même fait argent à Londres, et puis bon, on a expliqué ce qui s'est passé, les deux AF qui a fixé un taux limite de testostérone, elle qui en produit plus que la moyenne des filles sur cette distance notamment, donc eh bien elle a reculé dans les bilans mondiaux année après année, et finalement le tribunal arbitral du sport a décidé de retirer cette limitation du taux de testostérone, donc elle est revenue au premier plan, Caster Semenya, et elle vise évidemment l'or olympique ici, elle qui n'a jamais été championne olympique. Alors attention, on le dira également plus tard, mais les deux AF a quelques mois maintenant jusqu'en 2017 pour apporter les preuves, parce que les deux AF veulent faire quelque chose par rapport aux athlètes intersexués. Le tribunal des maîtres du sport dit ok, à partir des preuves, prouvez-nous que l'excès de testostérone peut faire courir les filles plus vite. Voilà, on verra ça dans un an.
Et Caster Semenya qui est très largement au bilan devant toutes les autres concurrentes, puisqu'elle a couru en 1:55:33.
53:33.
53:33. Non. Ça serait le record olympique. Et elle est une seconde devant la Burundaise Francine Nyanzaba, qui elle aussi a été contestée d'ailleurs dans sa féminité. Il y a beaucoup de questionnements. Ça n'est pas si simple pour ces jeunes femmes qui ont tout simplement des taux d'hormones un peu différents des autres. Voilà les deux qui seront favorites de cette compétition. Puis alors derrière, il va y avoir une sacrée bataille pour la médaille de bronze, puisque normalement, à moins que la course se joue au train, comme on l'a vu là sur le 1500 mètres, on peut penser que Caster Semenya l'emportera devant Francine Nyonzaba. Et derrière, ça se jouera entre Margaret Wambi, la Kenyane, Melissa Bishop, la Canadienne, et Lindsay Sharp, probablement la Britannique, avec également Marina Arzamasova, la Biélorusse, qui peut être dans les clous. Donc beaucoup de filles, quatre filles probablement pour la médaille de bronze. Il va y avoir une très très grosse baston sur ce 800 mètres.
Une petite image du saut en hauteur, parce qu'il y a une Américaine qui vient de se faire éliminer là. C'est, et qui a fondu en larmes. C'est
la plus jeune,
Vashti Cunningham.
Oui, c'est la plus jeune.
Voilà, et du coup on a vu Shanti Love là qui allait la consoler en lui disant ouais, c'est pas bien grave.
Et bah oui, cocotte. C'est pas grave, tu viens donc, juste de commencer dans ce concert là, c'est du très très haut niveau. Ça a commencé vraiment très haut. On avait l'impression qu'il voulait faire un écrémage rapidement, qu'il voulait se débarrasser des filles un peu rapidement.
Ça commence à combien en général, Maryse?
Ah bah écoute, normalement quand tu as une qualification à 1m94, ça commence à 1m80 au final. Là, ils ont commencé à 1m88 et derrière 1m93.
Qui décide de ça? Qui décide de commencer à 1m88?
Ce sont les jurys de l'IAF qui décident des montées de barre. En général, ils regardent les bilans mondiaux de l'année, alors que ça passe au premier essai à 1m97 pour Rouz Bettia, qui fait pour l'instant un sans faute dans cette compétition. En général, ils regardent les bilans de l'année et les bilans des filles engagées là. Et en fait, je pense qu'elles ont payé le fait qu'elles ont fait des super qualifications et qu'elles ont été 17 à franchir la barre de qualification. Donc, ils avaient certainement envie de faire un écrémage rapide.
Bon, c'est le cas, parce qu'effectivement, ça va assez vite, là.
Oui, il y a eu beaucoup d'éliminés.
Allez, les 800 mètres. Caster Semenya est là. Ça y est, l'ultra favorite, elle qui cherche un premier titre olympique à l'âge de 25 ans. Championne du monde. Elle n'avait que 18 ans. Attention à Francine Nyonsaba, l'athlète du Burundi. Deuxième. Elle pourrait apporter la deuxième médaille, rendez-vous compte, olympique à son pays, 20 ans après Vénus Niyongabo, qui avait remporté l'or olympique déjà, Maryse, hein, sur 5000 mètres, lui. Elle est championne du monde en salle. Francine Nyonsaba, elle a 23 ans, elle avait fait 7e à Londres, à 19 ans elle était déjà finaliste olympique, hein. Et elle a disparu pendant 2 ans car elle n'avait pas d'aide de sa fédération. D'ailleurs, elle a balancé, hein, sur les réseaux, sur sa fédération pendant les Jeux Olympiques. C'est très mal passé au pays. Elle se demande où passe tout l'argent que donne le CIO à son comité national olympique. Elle comprend pas. Allez, c'est parti pour cette finale, Maryse, du 800 féminin, avec au couloir numéro 1 l'américaine Kate Grace.
Elle a 28 ans, cette Kate Grace, qui a 2 titres nationaux américains, qui a réussi à passer les difficiles caps des sélections.
Johanna Joswick, la polonaise, attention, à outsider.
7e des championnats du monde 2015, 2 fois championne de Pologne, une 58-93 cette saison, honorable.
Caster Semenya, évidemment la favorite sud-africaine.
Ultra favorite, une 55-33 cette saison. Caster Semenya, qui était vice-championne olympique du 800 mètres en 2012, qui était 3e des championnats du monde en 2009, championne du monde en 2009 sur le 800 mètres, 2e également en 2015. La revoilà. Et c'est elle qui est effectivement la favorite.
Le couloir numéro 4, la Kenyane, l'unique Kenyane de cette finale du 800, Margaret Wambi.
Margaret Wambi, une 57-52. Elle a un gros chrono. Margaret Wambi, la vice-championne d'Afrique 2016 et également championne du monde junior du 800 mètres en 2014. Elle a 21 ans.
Et au couloir numéro 5, celle qui va essayer de contester la suprématie de Caster Semenya, Francine Nyonsaba.
Francine Nyonsaba était 6e des Jeux Olympiques en 2012.
Melissa Bishop, canadienne, au couloir numéro 6.
La record woman du Canada, une 57-43.
Lindsay Sharp pour la Grande-Bretagne.
Une 57-75, vice-championne du monde d'Europe des moins de 23 ans.
Et Marina Arzamasova au couloir numéro 8. C'est parti pour la finale du 800 mètres. Maryse, forcément, on va pour l'instant chacune vont rester dans leur couloir avec Caster Semenya. Et ça y est, maintenant on sera bas à l'intérieur. Caster Semenya qui vire en tête pour l'instant. Alors elle va peut-être essayer d'imposer un rythme fou. Caster Semenya qui recherche également un record du monde sur le 800 mètres, pourquoi pas ici, elle qui cherche aussi son premier titre olympique.
Et pour l'instant, elle est aux côtés de Nyonsaba, la Burundaise. Elles se suivent exactement l'une à côté de l'autre. Elles vont mener le train, ces deux jeunes femmes qui normalement ont une avance sur les autres. Mais Arzamova, la Biélorusse, se met en troisième position. Pour l'instant, ça n'est pas parti si vite que ça. On va surveiller le chrono aux 400 mètres.
Avec Caster Semenya qui est en tête dans son duel justement annoncé avec la Burundaise Nyonsaba. On va regarder le temps déjà au premier 400 avant évidemment ce dernier tour. Caster Semenya dans un duel déjà mano à mano, elles impriment le rythme, ces deux filles, la Burundaise, la Sud-Africaine, 57-59 au 400.
Ah oui, c'est quand même un train. On aura Lyon Zaba qui est en train d'accélérer très vraisemblablement qu'à l'entrée des 300 mètres, donc de la ligne droite opposée, il va y avoir un trou qui va se creuser. Voilà, c'est Lyon Zaba qui donne le rythme avec Caster Semenya dans sa foulée et Bishop, la Canadienne, en troisième position suivie par Arzamova.
Et pour l'instant, la Canadienne Wambi n'est pas à la lutte, elle est pas loin évidemment, tout peut se passer. Il reste environ maintenant 250 mètres dans cette finale. On tente une accélération, là c'est justement la Burundaise Lyon Zaba qui met l'accélération, Maryse.
Et oui, et pour l'instant, Caster Semenya ne montre rien. Je pense qu'elle va passer dans le virage comme elle l'a fait en demi-finale. Voilà, elle va à l'attaque de Lyon Zaba, Caster Semenya, pour entrer dans la ligne droite en tête et déposer toutes les jeunes femmes qui vont devoir concourir pour la deuxième et la troisième place.
Ça y est, elle a accéléré, la Sud-Africaine championne du monde il y a 7 ans déjà. Elle accélère, elle dépasse tout le monde. Caster Semenya qui va devenir championne olympique pour la première fois de sa carrière du 800 mètres femme. Elle s'arrache, Caster Semenya, grande championne du 800, championne olympique donc désormais ici à Rio. Le temps, Maryse, 1:55.29, elle bat son record personnel cette saison.
Et ce sera un podium 100% africain avec Caster Semenya, 1:55.29. Derrière elle, Lyon Zaba qui va remporter la médaille d'argent. Et si je ne m'abuse, la c'est Kenyan, Margaret 3e. Wambi qui prend la médaille de bronze derrière. Nous n'avons pas encore les chronos. 1:56.49 pour Francine Lyon Zaba. Record d'Afrique du Sud pour Caster Semenya en 1:55.28. Francine Lyon Zaba, 1:56.49. Et 1:56.89, record personnel pour Margaret Wambi qui prend la troisième place de ce 800 mètres.
Aucune surprise, Gilbert. Hein. Les trois attendus dans cet ordre-là sont là sur la boîte. L'or pour Semenya.
Alors, vous parliez avant de ces différents tests qui arrivent ou qui vont arriver. On a quand même les trois filles qui questionne, qui sont sur le podium.
Exactement. Wambi, Lyon Zaba et Semenya posent question par rapport à leur taux de testostérone. Bon, écoute, ce que je disais tout à l'heure, hein, pour l'instant, les deux élèves ne peuvent pas lâcher l'affaire. Ils vont revenir après la décision du TAS de limiter le taux de testostérone chez ces filles-là. Donc, en 2017, on va voir quel dossier va déposer les deux élèves sur la table du TAS pour prouver, hein, c'est le but, ils doivent prouver qu'un taux de testostérone élevé fait courir tout simplement plus vite.
Bon, Caster Semenya qui n'a pas non plus explosé de joie à l'arrivée, elle a fait ça un peu comme une formalité et voilà, elle n'est pas très expressive, Caster Semenya, même si là elle va tout de même chercher évidemment un drapeau comme de tradition pour faire un petit tour d'honneur. Voilà, donc
il manque Star Maryse en Afrique du Sud, hein.
Première à la fin de la Sud-Afrique,
oui, mais
très populaire.
Elle ne montre pas tellement ses émotions, elle a été beaucoup décriée et voilà, elle garde quelque chose assez d'assez secret, on va dire. On ne sait jamais ce qu'elle pense.
Ouais, elle a connu une grosse dépression, hein, justement après les tests qu'on lui a imposés de féminité. Caster Semenya, belle championne olympique du 800, 1:55.28. Hein, tu l'as dit, Maryse, elle bat son record national quand même.
Oui. Ouais. Et Marie-Laurence, qui n'est pas, je parle du son auteur, Young Fleisch, que nous avons donc naturalisée française, n'a pas franchi sa première barre à 97, mais de très très peu, je pense qu'elle va le faire.
Je te coupe parce qu'au Club France, nous avons trois handballeuses vice-championnes olympiques qui sont là. Nous avons mesdemoiselles Leno, Nyombla et Nzeminko, Amandine, Gnontian et Estelle. Mesdemoiselles, mesdames, bonsoir.
Bonsoir.
Et bravo, parce que c'est la première fois qu'une équipe de handball, une équipe de France de handball féminine, est sur un podium olympique. Donc vous devez être déçu par le score de la finale et le résultat de la finale. Mais enfin, tout de même, vous mesurez ce que vous avez fait, j'imagine.
Oui, c'est vrai que c'est complètement historique ce qu'on vient de réaliser. Je sais pas si on réalise. En tout cas, ça a été un beau match. On s'est battu jusqu'au bout. Je pense qu'on a vraiment mérité cette médaille et ce qu'on a vécu émotionnellement et avec toute l'équipe, c'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est voilà, c'est inoubliable et je pense qu'on va s'en souvenir toute notre vie.
Donc vous êtes toutes les trois ravies de ramener l'argent. Amandine.
Plus que ravi, franchement, c'est tellement de sacrifices. Il y a tellement de sportifs qui rêvent d'avoir cette médaille. Tout le monde rêve d'avoir la meilleure, la plus belle, celle en or. Mais franchement, voilà, elle a autant de saveur pour moi que celle en or. Tellement on s'est battu pour l'avoir, tellement il y a eu des émotions, des matchs à rebondissement où on s'est arraché, où on a plongé sur les ballons. Voilà, c'est aussi beau que l'or pour moi ce soir.
Bon, alors, il y a quand même eu des circonstances cette finale qui ont joué un peu contre vous, notamment la blessure d'Alexandra Lacrabert. On a l'impression qu'elle vous a quand même manqué, hein, sur la fin de match.
Ben ouais, forcément, Alex est une
est une joueuse importante de notre collectif et oui, elle nous a manqué.
Elle était la meilleure buteuse du tournoi avant sa blessure.
Exactement, on s'est battu sans elle, malheureusement ça n'a pas suffi, mais elle va revenir encore plus forte.
Alors, en plus, cette histoire, enfin l'histoire récente de l'équipe de France féminine n'est pas très simple. Je veux dire, c'était pas un long fleuve tranquille. C'est pas comme les garçons. Les garçons, c'est hyper stable. Il y a des médailles tout le temps. Voilà. Vous avez changé de coach. Il y a eu quelques remous en interne. L'ancien coach est revenu, alors que vraisemblablement, sans rentrer dans les détails, il y avait une rupture avec certaines filles. Alors il y a dû y avoir des discussions. Bref, maintenant tout va mieux, tout va bien, puisque ça gagne à nouveau. En général, quand ça gagne, ça arrange tout, n'est-ce pas? Toi qui veux prendre la parole là-dessus, c'est peut-être un peu délicat, mais.
Moi, je prends la parole. Il y a pas de problème. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, on y croyait.
C'est Amandine, tu sais que
c'est. Oui, c'est Amandine. Nous, on y croyait, dur comme fer, qu'on était capable de faire quelque chose à ces JO. On s'est battu tout ensemble, et je pense que voilà, on a prouvé qu'on était capable. On a vécu des moments difficiles, mais ce que je retiens, c'est la force du groupe. Être soudé, on demandait à travailler encore plus. Olivier nous a fait travailler encore plus et ça a payé. Et ce que je retiens ce soir, c'est qu'il y a une médaille et que je suis tellement heureuse d'avoir pu et qu'on puisse prouver que tout ce qu'on disait c'était justifié. Et voilà, on est trop heureuse ce soir de pouvoir partager ça avec tout le monde et d'avoir fait vibrer toutes nos familles, tous nos amis et tous les supporters qui ont découvert le handball féminin.
Oh, je pense quand même que le handball féminin, les Français connaissaient. Il y a quand même eu des titres il y a quelques années. Mais c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est quand même un truc un peu en plus quand même, non, Gnoncian? C'est différent des compètes que vous avez tous les ans.
Oui, ouais, forcément. C'est pas un championnat d'Europe, c'est pas un championnat du monde. Ça a une portée planétaire et oui, faire une médaille au jeu, c'est quelque chose dont on se souviendra toute notre vie.
Estelle, est-ce que c'est peut-être le début d'une grande aventure pour l'équipe de France féminine? Est-ce que finalement cette médaille d'argent ne peut pas être une étape vers, je sais pas, un titre mondial, vers les prochains jeux? Comment est-ce que vous voyez ça?
Ben, c'est exactement ce que j'imaginais en fait pour la suite. Très rapidement, à la fin du tournoi, je me suis dit que dans les points positifs, c'était vraiment cette lancée qu'on pouvait avoir avec ce collectif, cette confiance qu'on a engrangée maintenant et qui peut nous amener à faire de très belles choses sur les prochains événements, les championnats d'Europe, les mondiaux, et à vraiment débloquer un peu ces podiums qu'on avait pu été chercher depuis quelques années. Donc vraiment, j'ai de bons espoirs pour le futur et l'avenir de notre équipe sur les prochaines échéances.
Amandine Leno, le hand français, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Enfin, je veux dire, demain les garçons peuvent être une nouvelle fois champion olympique. Là, les filles sont sur le podium. Vous devez écœurer la concurrence. C'est quoi le secret du hand français?
Le cœur, je dirais que, en tout cas pour notre équipe, c'est le cœur. Je pense que les garçons sont au-dessus depuis un moment. C'est dur d'exister à côté d'eux et aujourd'hui je suis vraiment fière qu'on puisse exister à côté d'eux.
Bah,
je suis vraiment fière qu'on existe ensemble. Laisse-moi finir. Je suis vraiment fière de tout ça et je pense que le handball en lui-même montre qu'on est une grande nation du handball et c'est tellement beau de pouvoir le prouver et le savourer ensemble. C'est juste énorme de partager ça ensemble. On fait jamais de compétition ensemble avec les garçons et là, partager ça quand on rentre des matchs, discuter, échanger, c'est juste énorme et c'est la beauté des JO et faire une finale tous les deux. J'espère qu'ils gagneront de tout mon cœur. Faire une finale, c'est juste exceptionnel, ça n'a jamais été fait et voilà, ça restera dans l'histoire.
Une toute dernière question à Gnoncian Niombla. Faudra quand même faire un jour une étude sur les coachs de hand féminin, hein, parce que entre Olivier Krumbol, qui a l'air d'être un torturé des familles, et le coach russe, qui est un fou furieux, qui lançait la machine à postillon à chaque temps mort, c'est un fou aussi celui-là. Et vous avez quand même des coachs incroyables dans ce sport.
Ou alors, complètement fou, peut-être. Non, c'est des coachs à caractère, je pense. C'est des coachs à caractère, c'est des coachs qui donnent beaucoup de leur personne. Evgeny Trefilov donne beaucoup. Mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Donc, rien n'a changé.
Donc ça vous va, très bien.
Ça me va.
Merci, merci à toutes les trois et encore bravo pour votre médaille d'argent. Et nous on est particulièrement content à RMC puisqu'on est quand même partenaire de la Fédé d'Orne depuis des années, on vous suit. Donc voilà, on continuera à vous suivre, même si tous les trois vous jouez dans les pays de l'Est, en Hongrie, en Bulgarie. Et donc bon voyage, bon retour à la maison. Non, pas en Bulgarie, Macédoine, bah pourquoi pas en Bulgarie un jour.
Macédoine, Hongrie et Roumanie.
Roumanie, voilà.
Merci.
Salut, à plus.
Merci.
Dans quelques instants, Gladys et Pang pour son combat pour la médaille de bronze. Pierrick, c'est imminent ou on a encore quelques minutes devant nous?
Vous avez encore quelques instants puisque pour l'instant c'est le Brésilien qui a battu Mbarendia et qui fête sa médaille de bronze. Il vient tout juste de s'imposer dans une ambiance indescriptible comme vous pouvez l'imaginer. Un taekwondoïste brésilien médaillé de bronze. Ça va être dans quelques instants pour Gladys et Pang. C'est prévu dans une à deux minutes.
Non mais vous l'avez vu le coach russe, Trefilov? Ce type-là s'occupe de... Moi, j'ai suivi les compètes de hand pendant quelques années. Il est là depuis... il doit être là depuis 20 ans. Il s'occupe des filles, l'équipe russe. C'est une espèce d'énorme baraque qui fait 1m90, un grand tonneau. Et il, en fait, il ne parle pas, il fait que hurler. Donc, en fait, il hurle en permanence sur les filles. T'as l'impression qu'il est tout le temps en train de les engueuler. Donc, ça doit quand même être traumatisant au bout d'un moment d'avoir un mec comme ça qui fait que te hurler dessus. Enfin, bon, ça marche.
Ça dépend, hein. Peut-être qu'il leur dit des choses gentilles.
Ça marche, elles sont championnes olympiques.
C'est jamais.
Bon, bref, ça marche.
Non, oui, ça a l'air de marcher, mais souvent à l'Est. Hein.
Bon, Marie-Laurence, pour l'instant, pas passé 1m97. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à lui donner la nationalité française ou on l'a déchoué?
On est en hauteur, là.
J'aurais bien demandé à Saber de la faire en zonisme, mais Saber nous a lâché ce soir.
Ah bah, il est pas là?
Non, il est pas là.
Tu t'en rends même pas compte, c'est terrible.
C'est pas ce qu'on pauvre Saber. Mais c'est parce qu'on ne lui a pas dit qu'il y avait une française naturalisée par nous. Au son hauteur.
Mais non, elle est française, Maryse. On l'a pas naturalisée. Elle est franco-allemande. Donc, elle est aussi française.
Oui, d'accord.
Je suis désolé. Elle a choisi l'Allemagne, cette bonne dame. C'est très bien. Mais elle s'appelle Marie-Laurence. Et pas,
elle s'appelle aussi Jungfleisch, hein.
Jungfleisch.
Jeune cher.
T'as raison.
Pour être alsacienne, c'est une qualité.
Mais oui. Rendez-nous l'Alsace et la Lorraine.
Bah, non, mais
t'as crié ça quand t'étais gamin? Rendez-nous l'Alsace et la Lorraine.
Ah, non, c'est ça. Genre. T'as fait de l'allemand, Gilbert, c'est ça? C'est
allemand obligatoire à l'école primaire en Allemagne.
Cher fraîche, c'est
non,
ça?
En Alsace. Tu vois. Oh, pitié.
Ah, c'est ça, Jungfleisch. C'est cher fraîche. Enfin, jeune cher.
Non, j'en sais rien.
Bah alors, je croyais que t'avais fait,
J'ai fait de l'allemand, mais j'ai jamais aimé l'allemand. Je trouve ça moche.
Bon, Blanca Vlasic est passé à 1m97 et c'est sa meilleure performance de la saison. C'est encore une très, très grosse concurrente, ça. Elle lâche pas facilement.
Elle est troisième pour l'instant. Qui n'a jamais fait de médaille olympique. Imagine sa pire année où elle est blessée. Si elle a fait médaille olympique.
Oui, elle n'est pas championne olympique, mais, non, elle est vice-championne olympique.
Ah oui, elle est fait argent.
Derrière Tia Elbo en 2008, qu'il avait battue à la surprise générale, puisqu'elle était archi favorite, Tia Elbo.
Il a bien la tête d'un mec avoir fait allemand première langue pour être dans une bonne classe en quatrième. Pierre Ikten, qui va nous commenter le.
En allemand,
Gilbert.
En espagnol.
C'est la sixième première langue.
Gilbert, j'ai fait allemand dès la sixième pour être dans une bonne classe.
Sûr,
tu as raison. Gilbert, j'ai fait 14 ans d'allemand et je ne peux pas tenir une conversation plus de 20 secondes.
Alors dis-moi ce que ça veut dire, Jungfleisch.
Qu'est-ce que je viens de dire, Marie? Est-ce que je ne peux pas tenir une conversation plus de 10 secondes?
Non, mais ça, c'est pas une conversation, c'est un mot.
Écoute, Pierrick, ça suffit. Hein.
Le cancre.
Bon, Pierrick.
On parle de Gladys.
C'est meilleur pour le taekwondo que pour l'allemand.
On va d'abord parler de Jackie Galloway, puisque tu m'as lancé un défi tout à l'heure. Tu m'as demandé de prendre des renseignements sur cette américaine qui est entraînée par son père, Gary Galloway. Voilà, elle a 20 ans. Elle faisait partie, elle a la double nationalité, vous en parliez, les doubles nationalités. Elle a la double nationalité mexicaine et américaine. Elle était remplaçante il y a 4 ans pour les Mexicains. Elle est maintenant sous la bannière des États-Unis et donc elle va être opposée à Gladys Sepang. 20 ans pour l'américaine, 33 ans pour Gladys Sepang qui participe à ses troisièmes jeux. Mais les premiers jeux de Gladys, c'était en 2004. Autant vous dire qu'elle est là depuis un paquet de temps, la taekwondoïste française, la première française à avoir été championne du monde. Elle tentera de remporter dans quelques instants une deuxième médaille de bronze, elle qui avait déjà pris le bronze à Pékin. Elle est championne du monde en 2009 et 2011. On espère en tout cas qu'elle va s'imposer à l'issue de ce combat de 3 fois 2 minutes. Gladys est en bleu, son adversaire américaine Galloway est en rouge. On rappelle le principe, hein, tout simplement toucher la tête, le plastron pour marquer le plus de points possible. Si c'est un coup de pied simple, ça marque moins de points que si c'est un coup de pied retourné. On va espérer maintenant voir Gladys remporter, pourquoi pas, la 41e médaille, hein, puisqu'il y en aura deux autres demain, mais pour l'instant, ça ferait 41 si elle s'impose. Aujourd'hui, c'est parti. Il reste 1:55 de ce combat. On est parti seulement depuis 5 minutes. Évidemment, toujours rien de marqué. 0-0 entre les deux jeunes femmes. Gladys qui, pour l'instant, est en position d'attente. Les deux jeunes femmes qui s'observent. C'est, on le disait tout à l'heure, hein, c'est un petit peu le dénominateur commun de ces combats de taekwondo. Hein, on s'observe énormément avant de tenter, pourquoi pas, de lancer un coup de pied à la tête au plastron. Gladys qui, pour l'instant, observe son adversaire. Galloway qui fait exactement la même taille que Gladys Sepang. 1m78 pour les deux femmes. 88 kilos pour Gladys Sepang. 79 kilos pour Galloway. Qui enchaîne là les coups de pied. Attention Gladys qui a tenté de répliquer avec son pied droit. Personne n'a marqué. Il reste 1 minute 10 dans cette première reprise et Gladys Sepang qui est toujours évidemment dans la lutte pour décrocher cette médaille. Un premier point pour l'américaine. 1-0 pour l'américaine. Non, c'est bien pour l'américaine que ce point il est accordé. Un carton jaune pour Gladys Sepang. 1-0 donc Gladys qui est derrière. Elle veut une médaille, Gladys Sepang. Évidemment, elle était venue chercher l'or. On imagine qu'une maigre consolation avec le bronze, ça lui ferait toujours un petit quelque chose, même si c'est évidemment pour le titre qu'elle était ici à Rio. Il reste 45 secondes dans cette première reprise. Toujours 1-0 pour l'américaine qui a touché d'un. C'est une pénalité, un warning penalty qui a été encaissé par la française. 1-0 donc pour l'américaine. 30 secondes à jouer dans cette première reprise sur cet octogone vert du Carioca 3 pour ces épreuves de taekwondo qui se termineront aujourd'hui, puisque ce sont les dernières épreuves, hein. Les poids lourds pour les Françaises, des plus de 67 kilos. 20 secondes encore, Gilbert, dans cette reprise. On s'observe, on se regarde. L'arbitre, on est très strict en taekwondo, hein. On rigole pas, hein. Donc que ce soit les arbitres, hein. C'est 15 secondes encore. Voilà, c'est du taekwondo, c'est-à-dire qu'on attend, on s'observe, et puis de temps en temps on jette un coup de pied. Là c'est l'américaine qui a lancé alors que Gladys a tenté de répliquer. Ça n'a pas été marqué, il reste 2 secondes. C'est la fin de cette première reprise. 1-0 pour l'américaine qui a pris le devant dans ce combat contre Gladys Sepang.
Et espérons évidemment qu'elle arrive à renverser la vapeur. C'est un combat pour la médaille de bronze, je le rappelle, alors qu'ici le 5000 masculin va démarrer dans quelques instants avec quelques cadors de la discipline. Pendant ce temps-là au javelot, je signale que le Kenyan Julius Yego est en tête pour l'instant. On va commencer à parler du 5000, mais évidemment on ne veut rien rater du taekwondo, donc dès que ça reprend tu nous appelles, hein.
Absolument.
Qui a-t-il sur le 5000 mis à part Mo Farah que l'on voit là, Maryse et Nico?
Mo Farah, on va juste rappeler qu'il vise là ce soir un double doublé sur 5-10 000, champion olympique du 5 et du 10 à Londres il y a 4 ans, champion olympique du 10 il y a une semaine samedi dernier, donc tranquillement alors qu'il avait chuté à mi-course ou un peu avant. Mo Farah, il est là, il est l'immense favori, Maryse, évidemment. Il domine tout depuis quelques années déjà.
Et oui, c'est lui qui va être le favori de cette course, même s'il va être emmené dans ses retranchements, parce que lui aussi prend de l'âge. Encore une fois, c'est le Bolt du demi-fond et il sera poussé notamment par l'Éthiopien des jeunes Gebre Mesqel, qui était vice-champion olympique à Londres, et également
Bronze et Daegu aussi.
Oui, tout à fait. Et il y aura bien d'autres garçons comme Paul Kikemoy et Chelimo, l'américain.
Attention,
d'origine kenyane.
Dernier essai pour Marie-Laurence.
C'est parti pour le taekwondo, Gilbert.
Jeune viande.
Ah ouais, donc, mais là, il y a
Marie-Laurence. Il y a taekwondo, il y a la médaille, Gilbert. Ah, attention.
Nico, on fait quoi?
On fait Nico, on fait taekwondo et on vous dira ce qu'a fait Marie-Laurence.
Il y a une Française qui peut rapporter une première médaille olympique.
On va voir Gladys Sepang immédiatement, ça ne se discute pas.
Merci Maryse. 1:40 encore dans cette deuxième reprise, la Française qui est toujours menée par l'américaine Galloway. 1-0, rien de décisif encore. Si elle marque Gladys, si elle va toucher, pourquoi pas la tête ou un coup de pied retourné au plastron, elle marquera 3 points. Elle repassera devant. Déjà, si elle peut égaliser, ce sera déjà une bonne chose. 1-0 alors qu'il reste une 25. Attaque là de Gladys Sepang avec son pied gauche, mais ça ne marque pas. Ce n'est pas assez décisif, ce n'est pas comptabilisé par l'arbitre de cette rencontre. 1-15 toujours dans ce combat. 1-0 pour l'américaine. Ça ne montre pas grand chose. On n'attaque pas vraiment là côté des deux jeunes femmes. On se prend au corps à corps. L'arbitre qui intervient pour séparer les deux athlètes. Gladys Sepang, plastron bleu qui doit toucher. Ce serait bien de marquer Gladys avant la fin de cette deuxième reprise. Elle a écouté les conseils de son entraîneur Mehdi Ben Safi à la pause de ce combat. Pour l'instant, elle ne porte pas de coup décisif. Il reste 1 minute dans cette deuxième reprise et c'est toujours 1-0. Allez, c'est pas mal cette attaque de Gladys Sepang avec sa jambe gauche, mais ça ne marque toujours pas de point de marqué pour Gladys qui est menée 1-0. On le répète, elle a été médaillée de bronze. C'était à Pékin il y a 8 ans. Il faut absolument qu'elle marque si elle veut connaître de nouveau les joies d'un podium olympique. Gladys qui est toujours menée 1-0. On a toujours toujours pas marqué dans cette deuxième reprise. On attend, hein, côté Galloway, 20 ans seulement, qui pourrait monter sur un podium à seulement 20 ans. La jeune américaine entraînée par son père, Gladys Epang, qui elle est toujours en train de chercher l'ouverture. Ça ne marque pas, ça ne touche pas. Gladys Epang qui doit réagir. Il reste 20 secondes dans cette deuxième reprise. 20 secondes et ensuite il restera une toute dernière reprise, deux dernières minutes pour inverser la tendance. L'avantage n'est pas décisif, mais bon, on serait un peu plus à l'aise, hein, si elle venait à marquer pour se mettre plus dans le combat. Gladys qui ne semble pas dedans. Il reste 5 secondes maintenant à combattre. Elle tente pourquoi pas d'y aller pour un dernier assaut. 3 secondes maintenant. Non, on y va pas. Si, elle y va. Elle y va avec son pied gauche. Là, ça n'a pas été comptabilisé. Dommage. Dommage. 1-0 pour l'américaine. Il restera 2 minutes, 1 minute de pause et on retrouvera les deux jeunes femmes.
Très bien, espérons pour Gladys Epang que ça le fasse. Il faut tout donner dans la dernière manche pour repasser devant, bien sûr, alors que Marie-Laurence Jungfleisch est éliminée. Et Nico, écoute, il faut absolument que tu ailles la voir dans la zone d'interview, hein, puisque sa dernière n'est pas là.
C'est prévu.
Pour que l'on puisse.
Traduction, Marie, finalement, Jungfleisch.
Jeune chair, donc chair fraîche, c'est ce que j'avais dit, jeune viande en fait, très précisément.
Je peux venir, moi, si vous voulez. Joli, hein, si vous voulez, hein. Moi,
Marie-Laurence, chair fraîche.
Oui, c'est ça. Et qui n'est pas bien vieille d'ailleurs.
Ça lui va bien, hein.
Oh,
non, mais elle est jeune. Elle est jeune. Attendez.
Mais elle aura toujours le même nom, tu sais, même quand elle aura 60 ans. Enfin, non, elle sera peut-être mariée, tu me diras.
Marie-Laurence Jam. T'imagines ?
Ah, t'es amoureux, toi, ça y est.
Oui, je crois. Il a complètement perdu le 5000 mètres. Il ne l'intéresse plus du tout. La hauteur non plus. Le javelot non plus. Il veut juste aller en zone mixte.
Bien. Allez, le 5000 qui est parti. Alors, le record du 5000, c'est un peu plus de 12 minutes par.
C'est reparti au taekwondo, Gilbert.
Et bien sûr, là, on est parti depuis plus de 3 minutes. On a encore le temps. On a le temps largement de vivre la dernière manche de Gladys Epang pour une médaille de bronze, Pierrick.
1,50 dans ce troisième et dernier, assaut. Toujours 1-0 pour l'américaine. Le point qui a été marqué, bien ça, c'est dommage. C'est l'américaine qui touche et qui marque. Elle vient de marquer, l'américaine. Elle mène maintenant 2-0. Elle a marqué dans la première reprise. Elle vient de marquer dans cette troisième reprise. Si Gladys Epang ne touche pas tout de suite au plastron pour un point et pour après revenir, pourquoi pas égaliser, ça sera très difficile. Sinon il faut qu'elle aille chercher la tête ou un coup de pied retourné, car ça marque 3 points également, un coup de pied retourné. Gladys, si tu veux monter sur le podium, c'est maintenant que tu dois absolument marquer, toucher. Il reste 1 minute 20. Si tu ne marques pas, si tu ne touches pas, tu ne monteras pas sur ce podium ici à Rio. Allez, il faut y aller, il faut y aller maintenant, évidemment, hein. L'américaine, elle va attendre la française, elle va tenter de la contrer, elle va pourquoi pas essayer là de contrer l'américaine. Attention, c'est bien ce qu'a fait Gladys. Elle a marqué, elle est partie la première, elle a touché.
Le score
2-1 pour l'américaine. Maintenant, il faut marquer un deuxième coup de pied et après, pourquoi pas espérer marquer dans le golden score en cas d'égalité. C'est ce qui se passera, hein, si les deux jeunes femmes sont à égalité. Gladys Epang qui est toujours menée 2-1 par Galloway. On change la garde du côté de Galloway. Qui y va? C'est elle qui attaque. Et non, c'est pour l'instant, c'est stérile. On en reste là. 45 secondes à jouer encore dans cette troisième et dernière reprise. Toujours 2-1 pour la. Mais c'est bien Gladys. Non, ça, c'est coup de pied dans le dos. Ça ne sera pas comptabilisé. On en reste là. 40 secondes. 2-1 pour Galloway. Gladys qui doit marquer si elle veut, pourquoi pas s'offrir un petit répit dans ce combat alors qu'il reste maintenant 30 secondes. Elle y va, Gladys Epang. Non, c'est les deux jeunes femmes sont séparées par l'arbitre. Le chrono est arrêté. 28 secondes encore à disputer dans ce dernier combat. Ce sont les derniers instants de taekwondo dans ces Jeux Olympiques. Allez, il faut marquer juste un petit point, Gladys, pour pourquoi pas continuer à espérer, continuer à rêver, continuer à croire en ses chances de podium olympique. 2-1 pour l'américaine qui attend. Il faut la faire sortir, pourquoi pas. 10 secondes pour Gladys Epang pour court, pourquoi pas égaliser, tenter de disputer un dernier golden score pour la française qui se retourne, qui tente, mais c'est au contraire, c'est l'américaine qui compte. 2 secondes encore et 2-1, rien de marqué, c'est terminé pour Gladys Epang qui s'incline dans ce combat pour la médaille de bronze. 2-1, oh, quelle triste fin de tournoi pour Gladys Epang. On espérait tant la voir sur un podium olympique, évidemment, aller chercher pourquoi pas la médaille d'or, elle qui s'est battue pour être là, pour revenir au plus haut niveau. Et on l'espérait, pourquoi pas finalement, que ce soit pour du bronze. Mais ce soir, elle est tombée sur plus forte qu'elle, Jackie Galloway. C'est elle, l'américaine, qui décroche cette médaille de bronze. Le compteur reste bloqué à 40. Évidemment, 2 médailles de plus demain avec le handball et avec la boxe. Mais pour l'instant, c'est 40. Et Gladys Epang qui se prend la tête dans les bras, dans les mains. Elle est passée à côté d'un podium olympique. Dommage pour le compteur du taekwondo français qui reste bloqué à une seule médaille. C'était hier.
Merci Pierrick. Voilà, donc pas de médaille au taekwondo aujourd'hui, une quatrième place pour Gladys Epang. Alors que le 5000 est en cours ici à l'athlée, on est à peu près à mi-parcours. Donc pour les coureurs là qui sont toujours en peloton, donc on peut pas dire que ce soit un rythme effréné. Hein. Il reste encore 7 tours. Donc,
c'est calme pour l'instant. Effectivement, ouais. Aux avant-postes, ce sont les Éthiopiens qui vont essayer de faire.
On est même pas encore à la moitié en fait.
Le Britannique. Mofara, alors on sait plus quelle stratégie adopter depuis quelques années pour battre Mofara, qui reste quand même sur 7 titres mondiaux ou olympiques consécutifs, invincible sur les mondiaux et sur les JO depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Et alors si tu pars vite, ils ont essayé les Éthiopiens il y a quelques années, ça n'a pas marché. Si tu fais une course au train stratégique, ça marche pas non plus, pardon.
Ah oui, la course au train, très sincèrement, dans le dernier tour, c'est toujours Mofara qui est le plus rapide. Il y a quelques années, c'était un autre très grand de la discipline qui est encore présent dans cette course à 42 ans, l'Américain d'origine kenyane Bernard Laguette, qui faisait ça, qui était dans la course au train et qui était capable de finir très très vite, lui qui avait été champion du monde sur 1500 mètres et qui l'a été également sur 5000 mètres. Maintenant, c'est Mofara. Donc là, ils sont tous en train de se regarder. On a même l'impression qu'ils se parlent. Il y en a qui se bousculent un petit peu, genre tu passes, c'est moi, j'en sais rien. Et on a à peu près tout le monde de présent dans cette course. Gebremeskel, l'Éthiopien qui l'emmène, mais ça n'est pas significatif puisqu'on vous l'a dit, ils sont en peloton devant Chelimo, l'Américain, Asbel Kiprop, Rop, le Barani, Gebrewet, l'Éthiopien, Bouchart, le Britannique, enfin bref, ils sont tous là.
Galen Rop, là, qui avait fait également des courses ici sur la piste, là, et je crois qu'il est participé au 10 000, non, Galen Rop, si je ne dis pas de bêtises. Figurez-vous qu'il fait le marathon demain. J'ai vu ça dans
il est monté sur marathon pour sa fin de carrière.
On l'a vu sur la piste là pendant ces jeux. Et demain, il est au marathon. Il est engagé au marathon demain. Donc les Américains sont partout. Par définition, ils sont partout déjà.
Ils ont trois engagés dans toutes les épreuves. Puisque eux, c'est simple, hein, les sélections américaines emmènent trois athlètes dans toutes les épreuves d'athlétisme, sauf évidemment, bien sûr, s'il n'y a pas les minima de réaliser, mais chez eux, ça ne semble pas poser de problème.
Ça se passe
premier essai à 2 mètres. Elles ne sont plus que 4 dans ce concours et pour l'instant, ex aequo, Rousse Bethia, qui a passé toutes ses barres au premier essai avec, je l'ai perdu, Mirella Dimireva. Elle a raté un saut d'ailleurs. Voilà. Donc Rousse Bethia a tout passé au premier essai. Ça ne passe pas pour son premier essai à Blanka Vlasic.
Ouais, pour l'instant, le podium, ce serait Rousse Bethia, l'Espagnole, 37 ans, qui va tirer sa révérence à la fin de cette saison, dans quelques semaines, quelques mois à peine, qui n'a jamais été championne olympique, qui peut le devenir peut-être, donc, avec ce saut à 1m97. Deuxième, la Bulgare Mirella Demireva. Troisième, Blanka Vlasic. Celle-ci serait improbable, hein, qu'elle monte sur un podium après l'année galère qu'elle a connue, ses nombreuses blessures au tendon d'Achille. Le 5000, la finale, pour notamment suivre, surtout, le Britannique Mofara qui cherche un doublé, un quadruplé, 5000, 10000 en deux Jeux Olympiques, Londres puis Rio. Il reste un peu moins de 4 tours, Maryse, un peu moins de 4 tours. Et c'est toujours le Mofara maintenant qui a pris la tête, ça y est.
Un peu plus, un peu moins, ça ne semble quasiment pas faire de différence pour l'instant pour Mofara qui a l'air à l'aise, hein, tout simplement. Mais il est suivi par une armada de coureurs africains, tous en groupe. Mofara contre le reste du monde, hein, tout simplement. Ils sont tous là pour l'instant, tous les favoris, les Ougandais, les Kenyans, les Éthiopiens, les Américains d'origine kenyane, ils sont tous présents.
Dans quelques instants, nous aurons de nouvelles invités en direct du Club France, l'équipe de France de handball qui sera représentée notamment par Laura Gloser, Alison Pino, Alexandra Lacrabert, médaillée d'argent tout à l'heure ici à Rio. Et pendant ce temps-là, donc le 5000 qui continue, on attend l'emballage final. Elles ont toutes raté, hein, finalement, à 2 mètres les 4 restantes. Hein. Et donc, Sarah,
tout à fait, c'est le deuxième essai pour Rousse Bethia, effectivement. Blanka Vlasic ou ses concurrentes avaient l'occasion de la dépasser, mais pour l'instant tout le monde a échoué et ça ne passe pas pour Rousse Bethia, son deuxième essai à 2 mètres. Hein. Elle va se mettre à portée de la jeune Bulgare qui pourrait faire la surprise si elle franchit cette barre à son deuxième essai.
Alors que pendant ce temps-là, notre ami Julius Yego a apparemment passé un tour. D'après ce que
il a fait un essai.
Ouais. Il est qualifié pour les trois. Il a fait un très beau premier jet. Il est toujours en tête. Ouais. Donc il s'est dit bon, je me préserve pour les trois derniers. Donc pour l'instant, le Kenyan est en tête du tournoi de Javelot. Attention, Mofara là commence peut-être à prendre.
ouais, les choses en main.
Ça fait deux tours maintenant que Mo Farah a pris les choses en main, a pris la tête de ce groupe entouré par l'Ougandais Cheptegei, un de ses plus sérieux outsiders. L'Éthiopien Idriss est là également, deuxième meilleur performeur mondial de l'année. Le jeune Éthiopien, 22 ans, aucun podium ni aux championnats du monde ni aux Jeux Olympiques, mais qui conteste cette année la suprématie de Mo Farah. On verra, Maryse, ainsi encore une fois Mo Farah va régler tout le monde sur la dernière ligne droite comme il l'a toujours fait maintenant depuis plus de 4 ans.
C'est que pour l'instant, c'est une course qui est tout à fait taillée à sa mesure. Ça va sérieusement s'accélérer dans les minutes qui viennent. D'ailleurs, on voit que le train s'accélère maintenant sérieusement, mais pas suffisamment sérieusement pour décrocher l'un ou l'autre des 8 garçons de tête. Et ça va certainement être un mano à mano et un finish encore de toute beauté.
Mo Farah pour un doublé ici, un quadruplé après son doublé déjà à Londres, un double-doublé pour le Britannique, hein, né en Somalie, arrivé à 8 ans en Grande-Bretagne. Ça s'accélère effectivement sur la droite avec désormais c'est Idriss, l'Éthiopien, qui vient doubler au coude à coude là. Ça lui dit pas faire à l'intérieur, Mo Farah veut garder la tête absolument.
Ah, ça lui plaît pas du tout à Mo Farah, qui a compris qu'il fallait qu'il se détache très vite pour pas prendre de risque, hein, tout simplement ne pas accrocher alors que Blanka Vlasic tente son deuxième essai à 2 mètres et qu'elle a l'occasion peut-être de passer en tête si elle le franchit à son deuxième essai, puisque les autres jeunes femmes ont échoué. Et Mo Farah qui accélère encore pour essayer de se détacher de Idriss, de Gebrewet, qui ne le lâche pas pour l'instant.
Ouais, Gebrewet, hein, qui va essayer de contester Mo Farah. On est passé en 12-25 avant le dernier tour, hein. C'est pas une course rapide. C'est parti pour l'emballage final avec Mo Farah qui pour l'instant en tête. Attention à sa droite avec l'Américain Chelimo qui fait l'extérieur. Chelimo qui va essayer de contester Mo Farah, mais encore une fois Farah plus rapide. Les jambes de feu du Britannique pour un double doublé, 5000, 10000, Mo Farah, les bras en croix, champion olympique de 10000 mètres, champion olympique, le Britannique d'origine somalienne qui ne revient pas, double doublé pour Mo Farah, quel champion immense, c'est le Bolt du demi-fond.
Mo Farah semble intouchable sur cette ligne droite. Quand on essaye de le passer, il n'y a rien à faire. Il y a une rage, il y a cette fierté. Vous ne me passerez pas, je suis chez moi ici, c'est ma distance. Et c'est ma distance depuis déjà 8 ans. Mo Farah est grand, il est immense sur le demi-fond.
8e titre consécutif pour Mo Farah, championnat du monde et Jeux Olympiques confondus. Le Britannique, immense star dans son pays, qui n'a pas fini de faire monter sa cote de popularité. Évidemment, il est tranquille, heureux. Mo Farah, il vient ramasser ses concurrents qui sont allongés sur la piste bleue du stade olympique. Mo Farah, voilà, jambe de gazelle, hein, il n'est pas fatigué, il va aller voir tous ses concurrents et il va nous faire un tour d'honneur, le 4e tour d'honneur aux Jeux Olympiques pour Mo Farah, qui n'avait rien fait quasiment jusqu'à l'âge de 27 ans, Mo Farah, sur les podiums olympiques ou mondiaux.
Et dis-moi, si tu veux voir Marie-Laurence, faut que tu te dépêches, hein, parce que je la vois là. Elle est juste là. Il est parti.
Il est parti
à 2000 à l'heure.
Il a oublié son brassard. Il va se faire virer de la mix zone parce qu'il est amoureux. Voilà, c'est fait.
Voilà, Marie-Laurence Jungfleisch, la jeune allemande éliminée, enfin franco-allemande éliminée donc au saut en hauteur. Vu qu'on a suivi de très son concours, allons jusqu'au bout. Alors qu'on rentre, comme on dirait dans le basket, dans le money time du saut en hauteur, Maryse.
Troisième essai pour Ruth Bettia qui, pour l'instant, tient l'or. Au bout de ses chaussures jaunes et de ses petits mouvements de doigts, elle a une façon de se concentrer comme si elle pianotait sur un piano invisible en souriant avec ses lunettes de soleil miroir.
C'est un peu bizarre. Hein.
Un petit peu, c'est sa concentration, c'est comme ça. Cette grande Ruth Bettia qui serait, si elle était championne olympique, ça serait un coup de tonnerre à 37 ans pour cette jeune femme qui est là depuis des années. 27 titres nationaux. Ça ne passe pas de très très peu. Et là, elle se met à la portée. Elle va devoir attendre maintenant pour savoir si elle est championne olympique. Elle se met à la portée, bien sûr, des trois jeunes femmes qui restent encore en compétition. Et c'est une attente qui est souvent interminable quand on doit attendre à ce moment-là, quand on regarde Mirella Demireva, la jeune bulgare qui va tenter de mettre à son troisième essai. Il y a également Blanka Vlasic qui elle aussi rêve d'un titre olympique depuis maintenant 8 ans. Et Shantilov, cette américaine extrêmement extravagante, cette danseuse qui a passé 1m97 à son troisième essai et qui va elle aussi se présenter pour cette hauteur de 2 mètres.
Ruth Bettia, alors malgré tout, si les autres ratent toutes, elle est quand même championne olympique. Hein.
Tout à fait. Elle attend. Elle est dans l'attente.
Exactement.
Et si l'une de ces trois jeunes femmes passe devant elle, et c'est certainement Mirella Demireva qui est la plus dangereuse sur cette hauteur, sans compter Blanka Vlasic qui a quand même un mental de gagnante, qui a déjà battu sa meilleure performance de la saison après deux opérations, qui est revenue. Et c'est parti pour Demireva qui ne passe pas pour l'instant.
Donc Benyareva, elle ne sera pas en or, ça c'est sûr.
Elle ne
déjà.
Sera pas en or pour l'instant. Ruth Betia tient son titre olympique. Il reste Blanka Vlasic pour éventuellement lui contester ce titre. Et également Chantilov, l'américaine.
Attention, Nicolas Jamais de retour. Bredouille, s'est-il pris un râteau?
Brocouille, comme on dit chez moi.
Brocouille, c'est brocouille.
T'as pris un râteau?
Non. Bah, oui et non. C'est-à-dire que.
C'est oui ou c'est non?
Écoute, je vais
en fait, elle parle pas français.
Voilà. Elle comprend le français, m'a-t-elle dit. Le dialogue, c'est ça. Salut, tu parles français, Marie-Lo? Marie-Laurence, hein. Elle me répond, non. Tu comprends? Oui, je comprends, mais. Parle pas, voilà. Et donc elle est partie dans un grand sourire.
Et j'imagine que toi aussi, tu lui as souri benoîtement.
Exactement.
Bon, allez, on regarde Blanka Vlasic, troisième essai.
Tu lui as demandé son
si elle passe 0, cette 6, barre.
0034.
Si elle passe cette barre, elle est championne olympique. Si elle ne franchit pas cette barre, elle est de toute façon médaillée de bronze. Il faudra que Chantilov passe 2 mètres si elle veut monter sur le podium. Blanka Vlasic pour son troisième essai.
Attention, Vlasic, troisième essai, ça
mais
passe.
Ça ne passe pas, mais elle est médaillée de bronze pour l'instant, Blanka Vlasic. Et Ruth Betia tient toujours son titre olympique. Il reste Chantilov pour éventuellement contester. Alors, un titre.
Moi je veux te rendre hommage Marie. Il y a une heure et demie tu m'as dit Ruth Betia est ta favorite. C'est ta favorite pour le concours du saut en hauteur. À 37 ans, c'est une des plus belles histoires finalement de ces 10 jours ici. Hein. À 37 ans, l'athlète considérée comme étant la meilleure athlète de l'histoire de l'Espagne, qui n'est pas une grande nation d'athlétisme, elle est meilleure ailleurs, l'Espagne évidemment, eh bien peut devenir championne olympique.
T'as arrêté à quel âge Marie?
Attends. J'ai arrêté à quel âge? 32 ans.
Ah bah t'as peut-être arrêté trop tôt.
Hein. Eh ben écoute oui mais j'étais enceinte pour la deuxième fois. Chantilov pour son troisième essai.
Ouais, championne olympique.
Championne olympique. Ruth Betia.
Championne olympique du saut hauteur avec un essai réussi à 100 fautes à 1m97. Incroyable destin pour Ruth Betia qui a démarré en 1997. Son apparition dans les premiers concours seniors, c'était il y a quasiment 29 ans. Ruth Betia est désormais championne olympique. Incroyable sensation. Elle qui tira sa révérence. Elle qui part à la retraite dans quelques mois. Il aura fallu attendre quasiment 20 ans de carrière pour qu'elle décroche un titre de championne olympique, Maryse.
Elle n'a jamais lâché l'affaire, Ruth Betia.
Ouais, excusez-moi, mais je vois Julius Siego qui part en chaise roulante. Faut quand même qu'on voit ce qui s'est passé là. Il est en pleurs. Donc,
il s'est peut-être fait
Il est premier encore pour l'instant.
Oui, mais il s'est peut-être blessé gravement, tout ça. Enfin, probablement même d'ailleurs.
Il est encore premier, ouais.
Il est encore premier. Et là, il est. Alors peut-être qu'il va revenir, je sais pas. Enfin, bon, excusez-moi, je vais voir l'image. Hein, c'est pour ça que.
Ouais, enfin, en général, quand on part en chaise roulante, puis surtout qu'on a vu qu'il avait arrêté le saut d'avant.
Il a fait une impasse, ouais.
Alors, nos confrères des radios espagnoles qui sont toujours super bien placés, ils ont surgi devant la bouche de Ruth Betia quand elle est venue voir son coach. Il y avait trois micros là.
Ah oui, non, mais elle était, c'était l'une des filles qui était très en vue, elle qui était championne d'Europe il y a quelques semaines du côté d'Amsterdam. Et Ruth Betia, non, tu disais l'Espagne pas très grande effectivement dans le son hauteur, à part Ruth Betia hein, qui depuis des années est là. Par contre, en demi-fond, on avait énormément et on a toujours pas mal de monde. Même je ne sais pas vu comment ils avaient fait ces Jeux Olympiques, mais le demi-fond était pourvoyeur de médailles. Et il y a Ruth Betia. Et il y a Ruth Betia qui effectivement est celle qui gagne tout, qui est 26 fois championne d'Espagne, qui a eu des médailles mondiales, des médailles européennes, des médailles en salle. Et la voilà, championne olympique à 37 ans, elle qui avait annoncé que de toute façon, cette fois-ci, c'était bon, elle n'irait pas plus loin. C'est magnifique. Et même si Blanka Vlasic ne sera jamais championne olympique, cette médaille de bronze va avoir un goût particulièrement doux pour elle, parce que vraiment, s'il y a une saison où on ne comptait pas sur cette très grande championne, c'était bien cette année. Elle a été opérée il y a 3 ans de cela, elle a été à nouveau opérée cette année d'une cheville récalcitrante et elle a battu son record personnel de la saison pour revenir à 1m97, emporter cette médaille de bronze. Elle qui avait tenté de s'approcher du record du monde à plus d'une dizaine de reprises il y a quelques années lorsqu'elle avait franchi 2m08.
C'est vraiment une discipline sur laquelle on peut gagner des concours trentenaires passés. Regarde, Ruth Betia, 37 ans, la médaille d'argent. Chantilov, 32 ans. Blanka Vlasic, 32 ans également. On a trois trentenaires sur le podium olympique.
C'est de l'expérience, effectivement. Et il faut pouvoir tenir, parce qu'effectivement, le corps souffre pas mal. Mais souvent, avec l'expérience, on se rend compte qu'on arrive à compenser ce qu'on perd un petit peu en termes d'explosivité.
Championne olympique et 1m97, c'est pas un peu cheap?
Oui, cette année effectivement ça n'a pas été très haut, mais alors tu sais, je pense qu'elle s'en fiche royalement. Là c'est il y a des années c'est comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été plus haut. Je pensais vraiment que ça irait plus haut, mais alors je crois qu'il y a une compétition où ça n'est pas très important ce qu'on fait. C'est pas, voilà, on n'est pas en meeting et on vient ici pour chercher des médailles, des records, des médailles et des podiums. Le palmarès de Ruth Bettia, il est long comme le bras. Hein.
Trois fois championne d'Europe, cinq fois médaillée mondiale, championne du monde en salle, hein, il y a en mars dernier à Portland d'ailleurs quand même. Elle était en forme, hein, elle avait un record personnel cette saison à 1m, non, de sa carrière, 1m98 d'ailleurs.
Vice-championne du monde en salle à Portland cette année.
Ah, argent, pardon. Argent.
Et en 2010, et comme tu l'as dit, deux fois médaillée de bronze en salle, trois fois championne d'Europe, également championne d'Europe en salle en 2013, et puis encore trois médailles d'argent au championnat d'Europe en salle. Et aussi une médaille de bronze. Et si on remonte, eh bien, il faut descendre jusqu'en 2003 pour la trouver déjà finaliste au championnat du monde en 2003. C'était donc il y a 13 ans. Et elle n'a cessé de progresser. Elle n'a pas une technique très pure. Elle est toujours un petit peu désaxée, cette grande fille de 1m92 pour 71 kilos de Toralbo. Mais elle a un mental incroyable et elle ne lâche jamais rien. Et j'avoue que je suis vraiment très contente pour elle.
Tiens, moi je vais suivre le javelot là, parce que quand même notre ami Diego, s'il arrive à être champion olympique avec un seul G à 88 mètres en sortant sur une chaise roulante et malgré tout, ah non, il l'est plus. Roller a fait mieux là.
Oh là là, Thomas Roller à l'instant.
C'est certainement pas
90 mètres 30 Roller hein, quand même. Non, c'était pas encore le cas.
Non,
pour l'instant, il est deuxième.
Je veux
voilà,
dire que
le R de Retired, ça veut dire que ça y est, il ne va pas lancer à nouveau. C'est terminé pour Diego. Terrible, alors c'est double peine là. Il se blesse, il quitte le stade en chaise roulante. Dans le même temps, l'Allemand Thomas Roller, le favori au départ, lui chip la première place, 90 mètres 30. Il n'aura même pas l'occasion de battre l'Allemand, donc voilà, c'est dur.
Et c'est certainement pour ça qu'il pleurait, parce qu'il savait très bien que Roller pouvait lui passer devant et qu'il ne pourrait pas défendre ses chances. Mais vice-champion olympique, normalement, hein, si tout se passe bien sur un seul jet, c'est déjà assez exceptionnel pour ce garçon. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas l'avoir vu aller jusqu'au bout.
Exactement. Bah alors attends, s'il arrive quand même à avoir une médaille olympique malgré ça, là c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que un jet, tu te blesses, tu sors en chialant et hop, finalement t'es sur le podium. Ça, c'est quand même une histoire de dingue. Bon, à suivre, hein, Maryse, parce que c'est pas fini. Il y a beaucoup d'échecs, d'ailleurs. Il y a beaucoup de mordus dans ce concours de javelot. Je sais pas si ce que vous en pensez, mais regardez voir là. Là, sur les derniers essais, là. Alors,
parce qu'on prend des risques sur les derniers essais. On avance ses marques pour essayer de gratter quelques petits centimètres. Sauf qu'évidemment, comme dans toutes les épreuves, il y a des règles. Il ne faut pas dépasser la ligne blanche qui est marquée au sol, sinon l'essai est mordu. Et on le voit d'ailleurs, Julius Liego sur son saut, son seul lancer réussi. Je dis son saut parce qu'en même temps, il saute et il plonge. Et quand il plonge, il s'arrête à quelques centimètres de cette ligne qui marque l'essai valide ou pas.
Allez, dans quelques instants, on aura les deux dernières courses ici sur la piste olympique, les deux dernières donc de ces sessions d'athlètes. La dernière épreuve, ce sera le marathon. Demain, mais le marathon n'arrive pas ici, ne part pas d'ici et n'arrive pas ici. C'est dans un autre quartier. Enfin, pas très loin d'ailleurs d'ici. Enfin, au Sambodrome, le Sambodrome qui est le lieu emblématique du carnaval ici à Rio. Les écoles de samba défilent pendant la semaine de carnaval. Et là, ce ne sera pas les écoles de samba. Hein. S'ils vont pas danser la samba, les mecs demain au marathon, ils vont courir. Et essayer pour certains d'arriver devant. Et donc les deux dernières épreuves là, bah, c'est les deux relais 4x4. Donc ça promet du spectacle dans quelques instants. Tiens, il est 3h du matin sur RMC, je le précise. 3h, on peut envoyer le top horaire.